Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ce programme, le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour et bienvenue dans ce programme des jeunes et plus jeunes, le magazine Bana Okapi. Un programme de Radio Okapi financé par l'UNICEF qui traite des questions liées à la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et la protection du droit de l'enfance. Il s'agit aujourd'hui de la dépravation de mœurs chez les jeunes. En effet, plusieurs cas de scandales mettant en scène des jeunes ont été observés dans le pays ces dernières années. Ces incidents survenant dans les écoles, universités et en famille soulèvent des profondes inquiétudes quant à la montée en puissance de la dépravation de mœurs en milieu jeune en RDC. Ce constat met également en lumière les graves conséquences de l'irresponsabilité familiale et des lacunes de politique civique et morale dans le pays. Comment lutter contre la dépravation de mœurs chez les jeunes? C'est à cette question que votre magazine tente de répondre avec l'aide de nos invités, notamment un sociologue et un membre d'une structure privée qui a pour mission principale la défense de l'éducation comme droit et valeur universelle à protéger. Dans ce magazine, vous entendrez également les jeunes et les parents nous parler des causes de cette dépravation. Sarah Soumbela vous présente ce numéro du magazine Bana Okapi. Alain Goy est à la mise en onde de ce magazine, une réalisation de Christian Mapendano sous la supervision de Jean-Marc Matouakimofelele Dijana. Puisque le menu est déjà connu, ouvrons donc le bal de ce magazine avec... Okapi, Okapi. Comment lutter contre la dépravation de mœurs chez les jeunes? C'est les sujets au cœur de ce magazine. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, est confrontée à une vague de scandales sexuels impliquant des jeunes, notamment des élèves et des universitaires. Malgré les réactions des autorités et les sanctions prises, la situation semble stagner, suscitant une vive inquiétude quant à la dépravation de mœurs. Plotin Yambenga nous fait un rappel de ce fait qui ont secoué les pays.
Nous sommes à la première semaine du mois de septembre 2021. Un scandale éclate dans un établissement scolaire de Kinshasa. Des images d'élèves, filles et garçons affichant des comportements immoraux après les épreuves de l'examen d'État sont diffusées sur les réseaux sociaux. 5 élèves identifiés sont définitivement exclus de l'établissement catholique. De 2021 à 2024, plusieurs jeunes, notamment des utilisateurs de TikTok, sont victimes de la publication de contenus inappropriés allant des vidéos à caractère sexuel à des images de nudité. Suite à la multiplication des contenus indécents et aux plaintes des victimes, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a enjoint en septembre 2024 l'appareil judiciaire de lutter contre la dépravation de mœurs propagée sur les réseaux sociaux. Bien avant cela, en 2023, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bossembi, a annoncé des poursuites judiciaires contre les utilisateurs de TikTok, accusés de promouvoir l'immoralité au sein de la société congolaise. Ces événements témoignent d'une problématique croissante et préoccupante. La dépravation de mœurs chez les jeunes Congolais. Plusieurs facteurs y contribuent, tels que l'influence des médias, l'accès facilité à l'Internet et aux réseaux sociaux, ainsi que des facteurs socioculturels. L'absence d'une éducation sexuelle adéquate et d'une communication ouverte sur ces sujets dans les foyers et les écoles aggrave la situation. La recrudescence de ces scandales met en lumière la nécessité d'une action concertée pour protéger la jeunesse congolaise. Il est impératif, par exemple, de renforcer l'éducation sexuelle, de promouvoir des valeurs morales et de responsabiliser les utilisateurs des réseaux sociaux et surtout ceux communément appelés influenceuses et influenceurs.
Les amis de Bana Okapi, nous parlons dépravation de mœurs avec les jeunes. Comme vous le savez, ce magazine est dédié aux jeunes. Dans cet élément que vous allez bientôt suivre, les jeunes de Kinshasa pensent que la dépravation de mœurs constitue un problème crucial pour la société, les familles et les jeunes eux-mêmes. L'avenir de demain est en train de vriller à la ruine puisque le mœurs désigne les usages et les habitudes de vie au sein de la société. Malheureusement, ces mœurs sont aujourd'hui bafouées. Écoutons ce jeune au téléphone de Sulamite Kipuni.
Bonjour Madame Roland.
Bonjour Madame.
Que pensez-vous du comportement des jeunes de nos jours?
D'accord, merci pour l'opinion. Les jeunes de nos jours semblent avoir la réputation d'être beaucoup moins responsables. responsables que ceux des générations précédentes. Nous voyons très bien que ceux des générations précédentes, ils étaient beaucoup plus plantés dans des choses primordiales qui peuvent apporter un plus dans la société. Mais le jeune de nos jours s'y base beaucoup plus dans des publicités. Oui, les jeunes de nos jours sont beaucoup plus dans des luxes, ils sont mal élevés. Certaines maîtrises des autorités, ils n'ont aucun respect pour les aînés et tout. Et ils s'élèvent plus lorsqu'un adulte rentre dans une pièce, comme exemple clé. Donc, les gens de nos jours, leurs comportements ne sont pas beaucoup appréciés.
Y a-t-il des choses qui te choquent ou te mettent mal à l'aise dans les comportements de certains jeunes?
Oui, bien sûr, beaucoup. Et en guise d'exemple, Madame Sulamite, parlons beaucoup plus de certaines jeunes, sont tellement centrées sur le comportement néfaste qu'elles oublient même de prendre leur sens des responsabilités, de voir la réalité de la vie comme la vie s'y présente. Certaines jeunes sont beaucoup plus dans les idéalismes, ils se basent sur le fichier de stars, sur les personnes qui réussissent leur vie très malheureusement, au lieu de se concentrer sur l'essentiel.
Selon toi, qu'est-ce qui pousse certains jeunes à adopter des comportements que l'on peut considérer comme dépravés?
Certaines jeunes sont influencées par leurs entourages. Surtout, l'entourage a vraiment des impacts sur la plupart des personnes. Il y a certaines jeunes qui ne savent plus distinguer le bien ou le mal. Il y a certaines jeunes qui ne se calment plus face aux situations. Par exemple, faisons en guise d'exemple, lors de nos marches pour l'Est du pays, il y a certaines jeunes qui se sont comportées très bizarrement, dans le sens où on devrait normalement marcher pour restaurer la paix à l'Est du pays, mais certaines jeunes qui ont adopté des comportements très néfastes. En guise d'exemple, faisons face aux réalités qui se sont passées dans le supermarché, il y a des jeunes qui sont allés même jusqu'à piller. Et pourtant, le but de nos marches, ce n'est pas pour... détruire les sociétés ou soit magasins privés de certaines personnes, voilà. Nos jeunes, leur comportement ne sont pas vraiment encouragés. Et voilà, il y a certaines jeunes qui ne se calment pas face aux situations et ce qui leur pousse à adopter des comportements, ils sont en manque de l'écoute, au lieu quand même de chercher de pistes de solutions, mais ils sont beaucoup plus basés dans de bêtises, dans de bonnes filles. Et voilà.
D'après ce que vous venez de dire, quelle en serait la cause principale?
Ok, moi je dirais que la cause, peut-être les conséquences, c'est l'éducation. Parce que c'est pas tout le jeune qui se comporte mal. Mais sur 100%, il y a 99% qui se comporte mal. Je dirais que c'est l'éducation. Déjà, l'éducation, ça commence dans des familles. Sûrement, il y a ceux qui ont raté l'éducation dans des familles et qui sont allés dans la rue et ça a encore intensifié la chose. Il y a ceux qui sont très bien éduqués en famille. Mais quand ils sortent de la maison à la rue, leurs éducations, et puis après, il y a certaines dont leur mental ne sont pas forgés sur l'essentiel. Et voilà, il faudrait vraiment qu'ils puissent bien focaliser leur mental et il n'est pas que l'éducation néfaste puisse influencer les éducations positives.
Selon vous, la meilleure solution pour éviter toutes ces conséquences serait de mieux procéder dans l'éducation familiale, c'est ça?
Oui, c'est de mieux procéder dans l'éducation. Ceux qui sont dans le milieu scolaire, université, multiplier de conférences qui peuvent contribuer à la croissance du développement personnel et tout ce qui va avec.
Et pensez-vous que les réseaux sociaux ont une influence sur les comportements? Si oui, comment?
Oui, certainement, car chaque déjà dès le départ, chaque réseau social offre la possibilité de multiplier des relations, de développer de nouvelles. Certaines y trouvent certains contenus qui peuvent apporter du positif ou ça du négatif. Mais nous faisons face à certaines catégories de jeunes qui utilisent des réseaux sociaux pour d'autres choses au lieu de se concentrer sur l'essentiel. Et la majorité de réseaux sociaux, par exemple le réseau social TikTok, déjà qu'il y a des contenus qui peuvent apporter un plus dans la vie de jeunes. Il y a des conférences, il y a des conseils et tout, mais les jeunes se basent beaucoup plus toujours dans des futilités. Tu verras jamais un jeune, pas jamais, il y a ceux qui se concentrent aussi dans ce qu'il peut apporter de la futilité.
Oui.
Mais il y a d'autres qui sont beaucoup plus basés dans des bêtises, dans des danses, là où on insulte des autorités, c'est là où les jeunes peuvent aller se plonger. Et normalement, on devrait aussi, parce qu'on peut pas aussi gérer les réseaux sociaux. Mais on doit quand même solliciter aux jeunes, leur faire part qu'ils peuvent utiliser ça en bon escient.
Quelles sont les conséquences de ces comportements selon vous? D'abord, pour les jeunes eux-mêmes, pour leur famille et pour la société.
Déjà que pour les jeunes eux-mêmes, pour être bref, ils peuvent se désorienter de leurs objectifs. Parce que quand une personne se concentre beaucoup plus à ce qui ne va pas lui donner des options positives, il va vraiment se désorienter de ses objectifs, de ses buts, de la vie. En ce qui concerne leur famille, nous voyons beaucoup plus de jeunes qui sont beaucoup plus martelés sur de conneries. Ils amènent des ennuis dans des familles. Il y a certaines qui deviennent de couloune juste par le fait de voir les autres dans la négativité. Ils se plongent aussi. Et les conséquences
qui sont
sur les parents, sur la famille, sur la société. Il y a la multiplication de délinquants, des enfants de la rue, de personnes qui n'ont même pas le savoir-vivre.
Ok, merci. Monsieur, bonjour.
Bonjour, madame.
Que pensez-vous du comportement des jeunes de nos jours?
Merci pour la question. Déjà, pour répondre, de nos jours, le comportement des jeunes actuellement ne dégage pas un sens moral ou un sens des responsabilités. Il y a vraiment beaucoup de mots qui rongent le comportement des jeunes actuellement. Je cite le manque de respect, beaucoup de choses que je pourrais citer à l'endroit des adultes, de la communauté, des parents. Il y a beaucoup de choses qui laissent à désirer à l'égard des comportements des jeunes actuellement. Mais toutefois, il y a une minorité des jeunes aussi qui se comportent bien. Mais la majorité a un comportement vraiment pas très honorable.
Y a-t-il des choses qui te choquent ou te mettent mal à l'aise dans le comportement de certains jeunes?
Oui, je dirais oui. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui choquent dans le comportement des jeunes actuellement.
Telles que quoi?
Vraiment beaucoup de choses. J'ai fait citer, il y a les banditismes urbains, qu'on appelle chez nous communément le clown. Il y a les vols, d'autres s'adonnent au vol, à l'extorsion. D'autres sont dans l'addiction, la dépendance à la drogue, à l'alcool. D'autres aussi sont et surtout dans l'usage, un usage abusif des réseaux sociaux.
Ok.
Donc il y a des insultes, beaucoup de choses.
Et selon toi, qu'est-ce qui pousse certains jeunes à adopter des comportements que l'on peut considérer comme dépravés?
Qu'est-ce qui peut pousser les jeunes à adopter ce comportement dépravé? Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs vraiment. Premièrement, je peux énumérer d'abord les manques d'une bonne éducation, les bails. Donc déjà, ici nous voyons en famille. Si les jeunes loupent cette éducation de base en famille, donc ils tomberont sûrement dans la dépravation. Entre la famille, il y a l'école aussi. Il y a les églises, les associations où on peut vraiment recevoir une bonne éducation.
Donc l'environnement.
Outre la bonne éducation, l'environnement, voilà.
Voilà.
Outre cette éducation qui n'est pas bonne, il y a aussi la responsabilité des parents. Là, je cite alors l'abandon ou la démission des parents. Donc là, nous voyons les parents qui abandonnent souvent les jeunes, les enfants. Les jeunes, nous, n'ont où aller et quoi faire. Raison pour laquelle ils vont s'adonner au vol. Outre cela, j'ai fait aussi citer l'influence négative des autres, la mauvaise compagnie. Il y a un adage qui dit la mauvaise compagnie corrompt de bonnes mœurs. Donc, autour, il y a des jeunes qui ont des amis, peut-être à la fac, à la maison, au quartier. Soit un ami, par exemple, du type, un ami qui fume de la cigarette, aujourd'hui, demain, tu le côtoies. Tu seras aussi tenté d'essayer de fumer pour voir qu'est-ce qu'il y a en fait.
Effectivement.
Donc... Et là, on voit généralement que les jeunes peut tomber dans cette dépravation-là.
Ouais, donc sur ces, lorsque vous aviez évoqué les cas de la responsabilité des parents, de l'éducation de base, donc les parents doivent vraiment veiller sur ça et vraiment prendre cela au sérieux.
Oui, c'est ça. Les parents ont une lourde responsabilité par rapport à ça. C'est d'abord la première conditionnalité. Donc, c'est d'abord l'éducation de base, en famille, à la maison. Si les parents n'ont pas réussi à bien canaliser cette éducation, à bien donner cela aux enfants, le reste qui t'en suit déjà sera nul et de nul effet. Donc, c'est un peu ça.
Merci. Et pensez-vous que les réseaux sociaux ont une influence sur ces comportements? Si oui, comment?
Oui, véritablement. Les réseaux sociaux ont une influence très négative alors sur le comportement des jeunes actuellement.
Très négatif, donc il n'y a même pas de positivité ou bien c'est des parties.
Bon, dans la majeure partie des cas, l'influence elle est négative. Mais on ne peut pas dire en général que les réseaux sociaux sont mauvais. Non, il y a aussi des choses à retenir dedans. On peut faire des recherches, mener des recherches, mais actuellement les jeunes ça donne plus à des pratiques qui sont pas très bonnes sur les réseaux sociaux. Je cite par exemple, une curiosité qui peut vous amener à regarder des images, des vidéos qui sont obscènes, qui sont jugées obscènes. Vraiment, vous voyez. Donc, des choses qui sont contraires au bon sens, aux bonnes manières. Bon, les jeunes vraiment sont exposés au niveau des réseaux sociaux. Nous voyons que les jeunes s'insultent ponctuellement. Il y a des tapages, il y a de la musique, des danses qui ne sont pas très bien. Vraiment, les réseaux sociaux impactent aussi négativement sur ce point-là.
Le magazine Bano Kapi se poursuit, chers auditeurs, et nous parlons de comment lutter contre la dépravation de mœurs chez les jeunes. Slamit Kipuni nous a également recueilli la vie d'une dame, Jemima Yafaya. Pour elle, les parents et les tuteurs sont le premier responsable sur le fait qu'ils n'exercent pas correctement leurs devoirs. Toutefois, nous devrions noter que le contrôle social, les informations non sélectives, le manque de cadre et de repères et la banalisation du sexe contribuent aussi à la hausse de cette dépravation. On écoute.
Bonjour madame.
Que pensez-vous du comportement des jeunes de nos jours?
Les jeunes actuellement, les jeunes sont un peu dans des conflits, dans des comportements qui déplaisent à la population.
Oui, comme quoi? Quel genre de comportement?
Les comportements des jeunes aujourd'hui, c'est complexe. Et dans une nuance, bien qu'ils puissent avoir des aspects préoccupants, il est également important de connaître leur capacité à innover et à s'engager, à défendre des causes qui leur tient à cœur. L'accomplissement et le coup sont essentiels pour leur aider à naviguer dans ce monde.
Y a-t-il des choses qui te choquent ou te mettre mal à l'aise dans les comportements de certains jeunes?
Oui, il y a plusieurs comportements observés chez certains jeunes qui peuvent susciter des inquiétudes ou être jugés. On a comme le cyberharcèlement.
Ok.
Et la facilité avec laquelle certains jeunes peuvent harceler ou intimider leurs jeunes collègues jeunes est une source d'inquiétude.
Merci.
Et les conséquences psychologiques peuvent aussi être graves.
Selon toi, qu'est-ce qui pousse certains jeunes à adopter des comportements que l'on peut considérer comme dépravés?
Plusieurs facteurs peuvent pousser certains jeunes à adopter des comportements considérés comme dépravés. Y a l'absence d'une période de recherche d'identité. Certains jeunes peuvent essayer de comprendre extrêmement pour explorer qui ils sont ou pour se démarquer.
Ok, là c'est pendant la période de l'adolescence généralement que ça survient.
Oui, oui.
Pensez-vous que les réseaux sociaux ont une influence sur les comportements de ces jeunes-là? Si oui, comment?
Oui, les réseaux sociaux exercent une influence significative sur le comportement de jeunes. C'est là de plusieurs façons.
Telles que?
Normalisation de comportement, comparaison sociale. Je reviens encore avec le cyberharcèlement.
Okay.
Pour conclure, les réseaux sociaux ont le potentiel d'influencer profondément le comportement des jeunes, tant positivement ou négativement. Une éducation numérique et une sensibilisation aux enjeux de réseaux sociaux sont essentiels pour aider le jeune à naviguer de manière saine dans cet environnement.
Quelles sont les conséquences de ces comportements selon vous? D'abord, pour les jeunes eux-mêmes, pour leur famille et pour la société.
Le comportement décrit le jeune peut avoir des conséquences significatives pour ce même cadre-là de la société, de leur famille. Il y a quelques aperçus, voilà, il y a la santé mentale, les conséquences pour leur famille, les conséquences pour la société.
Pour leur famille, exactement, c'est quel genre de conséquences que la famille peut subir suite à ces comportements?
Le stress familial. Les parents peuvent vivre un stress important en essayant de gérer le comportement de leurs enfants, ce qui peut entraîner des conflits familiaux.
Et pour la société?
Les conséquences pour la société, que l'augmentation de la criminalité, le comportement deviendra un peu plus souvent courant dans la vie du jeune, peut contribuer à une hausse taux de criminalité.
Et si vous aviez le pouvoir de changer quelque chose dans la façon dont les jeunes se comportent aujourd'hui, qu'est-ce que cela serait au fait?
Si j'avais le pouvoir, je vais me contenter de l'éducation émotionnelle et sociale. Avec un programme émotionnel,
des forums,
une sensibilisation avec les réseaux sociaux, des encouragements communautaires, soutien psychologique accessible encouragement à l'engagement communautaire aussi.
Mais lorsqu'il s'agit d'éviter ces comportements-là pour nos jeunes, qu'est-ce qu'il faudrait faire normalement?
Ok, il y a plusieurs stratégies qui peuvent être mises en place. Par exemple, un programme éducatif intégré de cours sur le respect, l'empathie et la responsabilité dans le programme, par exemple scolaire, pour sensibiliser de jeunes de le plus jeune âge à ne pas commettre des erreurs.
D'accord, merci. Et c'est quoi la responsabilité des parents dans cette façon de se comporter des jeunes?
La responsabilité des parents dans le comportement des jeunes est essentielle et se manifeste à plusieurs niveaux. Le modèle de comportement. Les parents servent d'un modèle pour leurs enfants. Leurs propres comportements peuvent avoir de la valeur et de l'influence pour leurs enfants. Les milieux aussi influencent. Il faut savoir dans quel milieu vouloir éduquer son enfant avec de valeurs, quelles valeurs impliquer à l'enfant. Parce que de nos jours, on voit même des mineurs qui sont influencés par ce qu'ils voient dans la société.
Merci, madame.
Merci, madame.
Chers auditeurs de Bano Capi, cet élément marque la fin de notre première partie. Restez donc avec nous, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de votre magazine Bano Capi de ce jour.
Okapi,
Okapi, Okapi.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Capi ont préparé ces programmes. Le magazine Bano Capi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bienvenue à ceux qui nous prennent encore de diffusion. Sachez que vous êtes à l'écoute de Radio Capi qui vous propose son magazine Bano Capi. Nous parlons aujourd'hui de comment lutter contre la dépravation de mœurs chez les jeunes. En effet, plusieurs cas de scandales mettant en scène des jeunes ont été observés dans le pays ces dernières années. Ces incidents survenant dans les écoles, universités et en famille soulèvent des profondes inquiétudes quant à la montée en puissance de la dépravation de mœurs en milieu jeune. Ici en RDC. Sarah Soumbela est à la présentation de ce magazine. La mise en onde est assurée par Alain Goy. Christian Mapinda nous réalise ce programme sous la supervision de Jean-Marc Matouaki Mofelele Dijano. Commençons donc cette seconde partie dans la bonne humeur.
Radio Capi, le souffle du Congo.
La dépravation de mœurs se prend de plus en plus d'ampleur dans la société. Cela inquiète et au centre d'un mémorandum au CESAC sur la montée de la dépravation de mœurs au sein de la communauté. Un mémorandum du groupe Young Men Action for Education, une organisation qui a pour mission principale la défense de l'éducation comme droit et valeur universelle à protéger. Ces groupes attribuent les causes de cette dépravation aux médias culturels. Nous en parlons dans cet entretien avec Serge Bondedi, secrétaire général et représentant juridique de cette structure. Il accorde une interview à Rachel Kessembangou.
Monsieur Serge Bondedi, bonjour.
Bonjour madame Rachel.
Vous êtes auteur d'un mémorandum au CESAC, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC RDC, sur la montée de la dépravation de mœurs au sein de la communauté. Une dépravation dont vous attribuez les causes aux médias culturels. Pourquoi avoir adressé un mémorandum au CESAC?
D'abord, tout part de ce que nous faisons et de ce que nous sommes. Les objectifs dont nous poursuivons, il y a effectivement celui de contribuer à la protection de la jeunesse contre tout ce qui peut apparaître comme atteinte, ça peut être morale, physique, intellectuelle, contre le développement de cette dernière. Ce qui se passe effectivement dans l'espace médiatique, dans la vie sociale, en République démocratique du Congo, principalement dans des grandes villes, surtout dans la ville de Kinshasa, inquiète du point de vue éducation. Et ici, ça inquiète l'éducation au niveau de famille, au niveau de la société. C'est autour effectivement de la dépravation de mœurs où l'éthique, le mœurs ne sont pas respectées et le CESAC qui est certes une institution d'appui à la démocratie, mais lorsque on analyse l'ordonnance qui porte la création ou le fonctionnement du CESAC, il a parmi les missions la régulation des médias. Et ce qui se constate est que dans le média traditionnel, comme dans les médias sociaux, il y a des contenus qui n'arrangent pas, qui ne favorisent pas une bonne éducation des enfants. Et au-delà de cet aspect, mais ces contenus ont des conséquences perverses sur l'avenir des enfants. Vous avez notamment des contenus extrêmement violents. Vous avez des contenus qui font l'apologie du crime. Vous avez des artistes comédiens avec des pièces théâtrales où on apprend aux enfants les insultes. On apprend aux enfants les injures publiques. Et au-delà de les apprendre les injures et les insultes, on socialise les insultes de telle en sorte que le plus jeune commence à croire que insulter c'est un fait normal, un fait anodin. Malheureusement, il n'y a pas de pictogramme pour indiquer l'âge convenable pour suivre ce genre de contenu. Et puisque c'est donc au CESAC que revient le rôle de la régulation, c'est ainsi que nous lui avons aussi adressé ces mémos. Je parlais des artistes et comédiens, mais les journalistes aussi n'en parlent même pas. Et surtout ces médias qui passent par les réseaux sociaux, mais on voit de toutes les couleurs. De toutes les couleurs, autant il était parfois difficile de suivre certaines chaînes de télévision à côté des enfants, c'est le cas aujourd'hui avec des téléphones, surtout sur Facebook. Vous avez du mal à faire défiler votre page parce que vous allez tomber sur un influenceur ou une influenceuse qui débite des insanités sans contrôle, sans régulation. Vous avez des contenus publicitaires sur des produits cosmétiques, mais de plus en plus, ça s'avoisine à des séquences pornographiques où on ne sait plus faire la distinction entre la publicité d'un produit cosmétique et le contenu qu'on fait visualiser dans cette séquence ou dans ces films. Et malheureusement, ces séquences publicitaires passent même à la longueur des journées. La manière de se communiquer dans ces scénarios, vous sentez l'extrémité en termes de violence, en termes de manque de la vie en société, de règles de la société, ou même dans des scénarios où un enfant ne sait pas respecter comment est-ce qu'on s'adresse à un aîné, comment est-ce qu'on s'adresse à un parent, comment est-ce qu'on s'adresse à une maman. C'est du méli-mélo, c'est du toi-boi, et tout cela contribue à la dépravation, effectivement, de mœurs dans notre pays.
Mais pourquoi tirer la sonnette d'alarme que maintenant?
Il est vrai, on l'a fait maintenant, de manière formelle, parce qu'on s'est dit qu'il faut s'engager. Il y a toujours un temps pour lequel il faut faire des choses. On essayait à travers des forades, des rencontres où on arrive à prendre part. Et il y a même 3 ans, nous avons formulé même une recommandation formelle, notamment au secrétariat permanent d'appui à la coordination du secteur de l'éducation, pour élargir, étendre même la coordination du secteur de l'éducation à certains secteurs transversaux. Ici, il y a le sport, il y a la culture et art, il y a la jeunesse. Parce qu'effectivement, dans notre diagnostic de notre plan quinquennal, on avait effectivement remarqué qu'il y a un vide en termes d'éducation intégrale. Les établissements d'enseignement formels forment, mais la menace qu'il y a dans la société, elle est vaste, elle est étendue. Et ce qui fait que les efforts qui sont fournis au niveau des établissements sont dilués par rapport à la menace qu'il y a sur terrain, de telle en sorte que vous voyez maintenant comment est-ce que même ceux qui se disent intellectuels, les pantalons qu'ils commencent à porter, de gros pantalons parce qu'ils suivent un artiste musicien. Il y a eu dans cette ville l'artiste qui a porté le taille basse avec les pantalons. Et on a vu des gens suivre. Aujourd'hui, ce sont des gros pantalons. On voit que même des chants dans les églises commencent à porter des gros pantalons. Et donc, ce qui dérange, on s'est dit, mais comment des gens qui doivent être équilibrés, mais du claque des doigts, subitement, ils changent de comportement. Et cette génération qu'on parle des filles sans soutien, gorge, dans nos villes, parce qu'il fallait suivre un quart d'achat. Et là, vous voyez que c'est en suivant la chaîne télévision que les gens font. Et ce qu'on voit aussi actuellement, la manière de fiancer les gens dans une rue, dans une avenue. Voilà autant d'influence que de contenu média ont sur les gens. Voilà pourquoi on s'est dit qu'il faut qu'on s'engage de manière formelle. Et on a saisi notamment le CESAC pour se faire.
Alors, selon vous, quelle est l'ampleur, justement, vous avez un peu déjà amorcé cela, quelle est l'ampleur de ce phénomène aujourd'hui en RDC, ce phénomène qui est la dépravation des mœurs?
L'ampleur est grande et il est multidimensionnel. Et je crois que nous devons en prendre conscience. Et cette ampleur affecte tous les secteurs de la vie nationale. L'ampleur est le grand, d'autant plus que ça détruit les relations sociales, ça contribue à l'augmentation du taux de la criminalité. Aujourd'hui, on voit les Koulouna, mais c'est parce qu'à un certain moment, on n'a pas pu, d'une manière ou d'une autre, réguler sur des films qui faisaient la propagation de The Kiri aux États-Unis, et les gens ont suivi avec la pauvreté. Ça a pris toutes ces dimensions. Ça impacte aussi la santé mentale, parce que si vous êtes sur Niangwe, vous êtes sur quartier Nkimbuta, vous êtes à bon marché, mais vous vous demandez, est-ce que les gens ont le temps du repos dans ces coins-là? Et au-delà d'être exposés à des tapages nocturnes et diurnes, vous avez un autre aspect qu'on a mentionné dans notre mémorandum, de crise obscène de DJ. Ils vous disent, Lola nani felo olingi nini. Ils vous disent, yiba mwasia muninga. Ils ont autant d'écrits que nous avons mené des recherches. Vous avez décrit comme ici, moi, si à Moutouazate. Ce sont des endroits qui doivent être régulés. Mais quand vous êtes sur Niangwe, vous êtes sur Kimbuta Quartier, vous êtes à Matongé, sur Avenue du Stade ou sur Couloir Madiankoko, tout le monde crie ce qu'il veut. C'est DJ que je parle. Et pas dans un endroit fermé, mais dans des endroits
ouverts.
Et c'est tout le monde qui passe, des enfants qui partent acheter du pain pour la maison, des parents qui passent avec leurs enfants. Donc au-delà d'être exposé à ces tapages nocturnes et diurnes, ces musiques à foison, à des volumes excessifs, il y a ces cris-là. Donc ça impacte la santé mentale. Vous avez l'érosion des valeurs culturelles. La dépravation de mœurs a de l'ampleur jusqu'à ce niveau parce que ça détruit tout ce que la société... Nos générations ont hérité des générations passées en termes de valeurs. Et quand on vient dépraver ces valeurs, on perd le repère. Mais si vous êtes à l'intérieur, vous sentez qu'il y a encore des valeurs. À chaque croisement avec un enfant, même avec un adulte, ils savent vous saluer parce que ils savent que à chaque fois que vous croisez avec quelqu'un le matin, il faut se saluer. Donc la dépravation a aussi de l'ampleur à ce niveau. Et sans toutefois oublier le cas des exclusions sociales que c'est là. Cause comme conséquence aussi.
Rachel, s'il vous plaît, nous avons promis à nos invités de garder une bonne ambiance. Alors permettez-nous de souffler un
Okapi. Okapi.
Chers auditeurs, on retrouve à nouveau Serge Bondédé, secrétaire général et représentant juridique du groupe Young Men Action for Education, une organisation qui a pour mission principale la défense de l'éducation comme droit et valeur universelle à protéger. Il s'entretient avec Rachel Kessembangou.
Vous accusez les chaînes des télévisions, les radios, de contribuer à la montée accrue de la dépravation de mœurs, surtout chez les plus jeunes. Comment expliquez-vous cela?
Oui, parce que quand vous avez des organes de médias qui doivent jouer l'autorégulation, mais quand ils ne les font pas, quand vous avez des journalistes qui... On ne sait plus identifier, ils sont journalistes, ils sont invités à la fois, ils sont faiseurs d'opinion... Et qui peut sortir, il vous dit des choses qui ont de l'influence sur l'engagement citoyen, sur l'unité nationale, sur la cohésion. Vous avez toutes ces chansons qu'on diffuse. Est-ce qu'on estime que les organes de médias ne jouent pas, peut-être assez, pour ne pas dire pas, rares, sont ceux-là qui jouent ces rôles d'autorégulation en amont. Au moment où les organes ne jouent pas ces rôles-là, on ne peut que les accuser. Et ils doivent savoir qu'ils ont cette mission d'éducation de masse. On ne peut pas se permettre de tout diffuser, de tout laisser passer. On ne peut pas, à un certain niveau, permettre à tout le monde d'user de vos micros ou de vos caméras. Vous m'avez accueilli parce que j'ai une qualité. Je parle de l'éducation, je suis un acteur dans le secteur de l'éducation. Si, en sortant de votre mission, vous sentez que je commence à déraper, je ne crois pas que la prochaine fois, vous allez m'inviter. Parce que vous êtes sérieux dans votre organe. Vous tenez aux valeurs sur un certain nombre de principes. Mais pourquoi les autres, ce n'est pas le cas? Mais au-delà de ça, il y a un organe de régulation. Donc, ici, nous pointons du doigt les organes de médias. Si nous connaissons des problèmes que la société connaît aujourd'hui, c'est notamment à cause d'eux aussi.
Ne pensez-vous pas que c'est aussi la responsabilité de parents?
Oui, les parents jouent un rôle très important parce que même dans la loi cadre de l'éducation, il est dit que l'œuvre éducative est amorcée au niveau de famille. Mais si on va très loin, la famille va rejeter sa responsabilité à l'État. Parce que nous sommes dans une société où la structure familiale a connu une désarticulation totale. Si on pointe du doigt à l'État, l'État vous dira, il a connu des problèmes depuis les années 80, il y a eu des crises, les conflits, les contextes sociaux, politiques, sécuritaires qui ont influencé les contextes sociaux et politiques. On ne peut pas rester dans les explications, il faut agir. Le gouvernement dispose d'un ministère qu'on appelle le ministère du genre, famille et enfants. Mais malheureusement, on a l'impression que c'est beaucoup plus le ministère du genre. Je mets quiconque à défi, Madame Rachel, si vous appelez maintenant là la ministre du genre et que vous lui demandez si la République démocratique du Congo compte combien de familles, je le mets à défi et elle ne vous répondra pas. Pourquoi? C'est un indicateur qui montre que côté famille, déjà au niveau du gouvernement, il n'y a pas assez d'engagement. Et si au niveau du gouvernement, il n'y a pas assez d'engagement, allez-y comprendre au niveau des familles en soi. Mais dis-moi, les parents ont effectivement un rôle à jouer parce que c'est aux parents d'enseigner aux enfants les valeurs, comment se comporter, les règles de la vie en société, la politesse, le respect. Toutes ces choses, c'est à la famille que ça doit s'apprendre. Mais de quel type de parents les Congo disposent-ils actuellement? Si nous prenons le cas actuellement, avec l'avancée, vous avez plus des parents des années 70, 80, 90. On peut exempter ceux des années 70, mais les années 80, la crise a commencé dans ces pays. Plus ou moins 80, mais 90, il y a eu le pillage, c'était la désarticulation totale. Déjà pour la majorité, le parent actuel, c'est-à-dire qui entre les années 80, ils sont entre 30 et 40 ans. Ce sont ceux-là qui étaient dans les écoles Mumbongo. Ce sont ceux-là qui sont des générations Wenge, ce sont ceux-là qui sont des générations Viva la Musica, ce sont ceux-là qui sont des générations, comment on les appelle, Warrior, ce sont ces parents-là. Et pourquoi je donne ces exemples? Un parent ici des générations Wenge, c'est un parent qui... Parce que en Wenge, vous avez les esprits douze, vous avez les esprits de bouder les gens, même quelqu'un qui sait mieux faire par rapport à vous, mais vous êtes appelé à les bouder. Ce sont ces parents-là. Et comment vont-ils transmettre des valeurs à leurs enfants? Et là, ça nous amène sur les opérateurs culturels. Comment est-ce qu'ils ont influencé négativement des générations tout entières?
Revenons au mémorandum. Avez-vous reçu une réponse quant à ce?
Jusque-là, non. Jusque-là, non. Et très souvent dans notre pays, des choses qui, on espère, mais ce qu'il y a comme constat souvent, des choses qui doivent construire la société de manière solide, on a l'impression que le gouvernant n'en donne pas assez d'importance. Je ne le dis pas par rapport au mémo, j'espère que ça ne sera pas le cas par rapport au mémorandum, mais ici, j'en attire à la responsabilité des dirigeants. Aujourd'hui, nous crions l'invasion de l'armée rwandaise, ainsi de suite. Mais nous avons des menaces beaucoup plus dangereuses dans notre société. Voilà pourquoi il y a de ces philosophes qui ont dit que pour détruire un pays, il ne faut pas bombarder par une bombe atomique. Il suffit juste de manœuvrer dans la détérioration de son éducation. Donc, par ici, j'attire donc l'attention des dirigeants. S'ils veulent vraiment que cette société soit conservée, ils doivent travailler d'arrache-pied sur la préservation de mœurs.
Nous allons finir par là. Quelle solution proposez-vous ou espérez-vous avoir du CESAC?
Nous avons proposé 5 et ça demande l'effort de plusieurs structure, le CESAC. Nous voyons aussi la Commission nationale des censures. parce que c'est la commission à qui revient la charge de veiller les chansons produites en spectacle ou pour des consommations au public. On a aussi parlé dans ces pays de la coordination des changements des mentalités, la présidence. 5, d'abord les renforcements de la Commission nationale des censures, parce que on a connu dans ces pays un musicien qui a été arrêté pour avoir pour le fait qu'une vidéo sextape s'est retrouvée dans l'opinion. Mais pendant qu'on a mené ce musicien à la prison de Makala, il y a eu un coup de fil digne des autorités du pays pour demander qu'on relâche cet artiste et musicien. On peut bien beau aider quelqu'un, mais il faut toujours mesurer l'ampleur négative que cela peut avoir dans la société. Donc il faut renforcer la Commission nationale des censures. Il faut des sensibilisations, d'éducation et renforcement de capacités. Effectivement, pour le CESAC également, parce que une fois j'ai suivi le président Bossembe en train de se plaindre sur le manque des moyens de monitoring. Il ne s'est pas monitoré. On a vu, il a essayé d'arrêter Bachelor, mais il n'y a pas que Bachelor. Le bouquet Canal Plus a plus de 13 chaînes qui sont dans le même magazine, presque des magazines de ces gens-là. Mais est-ce qu'il a de moyens pour monitorer? Et s'il monitore, est-ce que c'est le mesure qu'il prend sans coercitive? Est-ce qu'elles sont d'application? Il faut la sensibilisation, comme je venais de dire, pour que la population comprenne les dangers de la déprivation de mœurs. Il faut encourager surtout des contenus positifs et promouvoir des contenus ou des alternatives musicales. Il y a aussi dans ces pays ces artistes qui font de la bonne musique. Quand vous écoutez Céline Banza, je crois, Jean Goubal, il y a autant de musiciens qui font de la bonne musique. Mais pourquoi leurs contenus ne sont pas assez connus du public? Parce que par manque de moyens. Donc il faut à un certain moment, comme disait le feu cardinal Laurent Mosengo aux musiciens, il faut vendre le patrimoine culturel. Mais est-ce que les musiciens connaissent aussi ces patrimoines culturels? Il y a des mécanismes qu'il faut mettre en place. Il faut le dialogue avec le créateur des contenus pour qu'il soit responsabilisé. Et enfin, il faut des cas de suivi citoyen d'évaluation. Et ça, nous avons dit, effectivement, c'est ça, que nous sommes prédisposés à accompagner le pouvoir public pour l'atteinte de ces objectifs, parce que la question de mœurs, c'est une question publique qui engage avant tout le pouvoir public.
Monsieur Serge Bondedi, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier.
Okapi, Netabendi Yamani.
Et nous recevons pour vous le professeur Bouiza Damas, professeur des universités, diplômé en philosophie et anthropologie culturelle. Dans cette interview, il parle des comportements antisociaux liés à une éducation ratée à cause des démissions de l'autorité parentale. L'enfant n'appartenant pas seul à sa famille, les voisins doivent également rappeler les principes d'harmonie sociale. Éviter d'avoir des écoles de savoir théorique, mais avoir des écoles de savoir être. Ce qui pousse les enfants au savoir-vivre ensemble. Pour le professeur Bouiza, la racine provocatrice de la dépravation de mœurs, c'est le manque d'une éducation responsable. Il s'entretient donc avec Jeff Opela.
Bonjour professeur.
Bonjour monsieur Jeff.
Voilà, aujourd'hui nous parlons des comment lutter contre la dépravation de mœurs chez les jeunes. Et vous, en tant que sociologue, quelles sont les causes de la dépravation de mœurs dans notre pays?
Quand on parle de dépravation de mœurs, surtout en sociologie, nous sommes dans ce qu'on appelle la déviance sociale. C'est-à-dire, nous voyons tous les comportements qui transgressent les normes et notre société s'offre pour le mieux vivre ensemble. Donc nous voyons tous les comportements qui ne sont pas approuvés par la société, et qu'on appelle généralement des vices, si on doit utiliser un terme moral. Mais ces vices sont directement liés à l'éducation que nous recevons comme enfants, c'est-à-dire comme quelqu'un qui est en développement pour devenir adulte, mais aussi pour devenir citoyen d'un pays, citoyen, c'est-à-dire d'une cité. Et donc c'est au niveau de l'éducation qu'il faut voir les grandes causes. Et la déprivation de mers, généralement, est liée à une éducation ratée. Et quand nous voyons une éducation ratée, nous voyons directement les parents, qui sont les premiers acteurs de l'éducation. Et donc, nous voyons les parents qui ne jouent pas les rôles, ou bien qui ont démissionné dans les rôles de parents, et qui ont abandonné un peu leurs enfants à la société. Et ici, la société, ce n'est pas la bonne société. Mais c'est, disons, les mauvais côtés de la société qui influencent négativement les enfants et les conduit dans des groupes ou dans des bandes qui vivent un peu de la déprivation de mers. À côté des parents, pour nos sociétés africaines, nous voyons aussi les voisins. Parce que du point de vue de nos mers, l'enfant n'appartient pas uniquement à sa propre famille. L'enfant appartient à la communauté. Et donc, quand l'enfant, quand les parents ou les parents n'ont pas fait leur travail, même le voisin peut faire quelque chose. En rappelant les règles de la société, en rappelant aussi comment il faut vivre ensemble. Et donc, là où le voisin ne relève pas, ou bien ne complète pas, les parents dans leur rôle d'éducation, il y a aussi possibilité que les jeunes du quartier ou le voisin ne continuent pas l'éducation des jeunes ouvrent aussi à des actes ou à des comportements qu'on peut qualifier de déprivation de mers. À côté des parents et des voisins, nous avons l'école. Parce que après les parents, notre milieu habituel, c'est vraiment l'école qui prend en charge finalement les jeunes gens, surtout les citoyens. Généralement, dans notre programme scolaire, nous avons beaucoup de cours, ou bien nous avons une suite de cours de l'éducation civique qui apprend aux jeunes comment vivre avec les autres, le respect des parents, le respect des aînés, le respect du pays, et tout ça. Déprivation de mers égale aussi démission de l'école ou l'école qui n'a pas fait très bien son travail d'éducation et l'école qui s'est limitée à être seulement un lien d'instruction. Où on donne seulement des grandes connaissances, mais on n'éduque pas les enfants. Donc on ne touche pas leur comportement. Donc ce n'est pas une école du savoir-être, c'est seulement une école des savoirs théoriques, comme des savoir-faire, comme des techniques. Mais actuellement, nous voyons surtout la télévision ou les médias, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, qui sont un des moyens de transmission ou même de diffusion, de communication, de beaucoup de comportements qui sont désapprouvés par la société. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, on ne sait pas contrôler les enfants. Avec la télévision, on ne sait pas généralement contrôler ce que regardent les enfants, surtout pour nos familles qui vivent en ville, où la maman et les papas tous doivent sortir pour aller chercher de quoi maintenir la famille. Les enfants sont abandonnés à la télévision. Alors, quand on n'a pas le contrôle de ce qu'ils regardent, là aussi, il y a possibilité de ne plus maîtriser le comportement de nos enfants et de les exposer à des déviances sociales. Moi, je mettrai d'abord tout au niveau de l'éducation. Et l'éducation, c'est au niveau des parents et au niveau de la société, à partir des voisins, à partir de l'école et aussi à partir de ce que nous avons actuellement comme moyen de technologie, sans oublier d'autres acteurs sociaux comme l'Église.
Voilà, professeur, vous avez épinglé quelques éléments liés aux facteurs socio-économiques et culturels sur la déprivation des mers. Mais que peuvent être les conséquences pour l'avenir du pays?
Bon, le problème de la déprivation sociale, c'est-à-dire de la déviance sociale, quand on n'intervient pas le plus tôt possible, au niveau de la jeunesse, ça conduit à la délinquance juvénile. La délinquance juvénile, finalement, ça conduit à de grands groupes de criminalité urbaine, notamment ici, on peut voir le banditisme des clowns à Kinshasa qui devient de plus en plus non maîtrisable. Nous avons vu aussi il y a quelques années les grands phénomènes de Ouzana. C'était une déprivation juvénile liée à la sexualité parce que c'est un des facteurs économiques et sociaux où on voit aussi la société adulte qui entretient cette pratique parfois avec une certaine tolérance au niveau social. Par exemple pour les clowns, quand il y a des familles qui deviennent aussi complices des actes de leurs enfants, conséquences au niveau, par exemple, d'Oudjana, quand nous voyons les clients même de ces Oudjana, qui sont des adultes, qui savent qu'ils encouragent un comportement désapprouvé par la société, mais aussi au niveau socio-économique, c'est la pauvreté. La pauvreté des parents qui sont pris en charge désormais par leurs enfants et qui n'ont plus de contrôle ou d'autorité sur leurs propres enfants. Du point de vue de l'avenir, c'est que cette délinquance devienne des mouvements tolérés, acceptés par la société parce que finalement, soit au niveau des familles, on vit de ça, ou bien soit au niveau du pays, il y a une sorte de défaillance au niveau du contrôle social. Les instances de sécurité, les instances de l'ordre ne parviennent plus à maîtriser ces formes de déprivation qu'on pouvait éradiquer bien avant. Il y a aussi comme conséquence, et parfois aussi déjà comme cause, le manque de repères sociaux. Quand nous vivons dans un pays où les valeurs ne sont pas encouragées, dans un pays où, par exemple, la corruption est un mode de vie, hein, pour passer des classes, on doit corrompre, pour obtenir telle chose, on ne passe pas par la voie normale, par ce qui est indiqué, mais il y a toujours un détour de la société. Alors, c'est normal qu'à un certain moment, ces antivaleurs se transforment en mode de vie. Et quand ça devient un mode de vie, ça devient encore plus difficile d'éradiquer parce que ça devient une mentalité, ou bien ça devient une habitude, puis encore une culture. Et là, ça devient vraiment compliqué. Alors, du coup, pour prévenir tout ça dans l'avenir, il faut travailler davantage sur l'éducation, hein, travailler sur les jeunes, mais aussi l'éducation des citoyens. Ici au Congo, on a beaucoup parlé de l'éducation à la nouvelle citoyenneté, donc pour dire, et pour les enfants, et pour les adolescents, et pour les adultes, nous tous, à un certain moment, nous avions besoin d'être éduqués ou rééduqués. Et donc, il faut cette éducation-là à la citoyenneté, et donc une éducation qui nous met face aux normes sociales, qui nous dit comment nous devons vivre ensemble, comment on doit conduire, comment on doit se comporter devant l'ancien. Donc, ce sont des choses qu'on apprenait quand on grandissait. Actuellement, c'est de plus en plus des choses pour lesquels on ne prête plus beaucoup d'attention. Et il y a des conséquences terribles dans la vie de la société, dans la vie du pays, parce que finalement, ça sera un pays qui ne se base plus sur des valeurs et qui n'a plus de repères. Voilà un peu ce que je peux dire concernant la dépravation des mœurs, ses causes et ses conséquences sur notre vie d'ensemble.
Alors, professeur Bouissa, à qui incombe la responsabilité face à la dépravation des mœurs? Est-ce aux parents, à la société ou à l'État congolais?
Et chacun a sa part de responsabilité, c'est tout le monde. Les parents, d'abord, ils sont les premiers éducateurs, ils sont les géniteurs et les premiers éducateurs. Ils ont la première responsabilité d'éduquer, d'orienter, de surveiller et d'accompagner leurs propres enfants. Après, les parents confient leurs enfants à l'école, donc l'école a aussi sa mission, ce n'est pas seulement d'instruire, ce n'est pas seulement de transmettre des connaissances, mais de travailler pour que les enfants qui leur sont confiés deviennent des citoyens. Et donc, là aussi, il y a une éducation, comment dire, au savoir-être, au savoir-vivre, qui incombe à l'école comme une institution sociale. Et c'est la même chose pour les églises aussi. La même chose pour d'autres institutions sociales. Mais l'État, à la fin, c'est lui le grand responsable parce que c'est lui, finalement, qui dirige, qui oriente, qui surveille un peu la vie de toutes les autres institutions sociales. On peut dire que c'est lui le grand boss, entre guillemets. Ou bien c'est lui le grand patron, c'est lui le grand papa, ou comme la nation, comme la grande maman. Donc à la fin, c'est lui qui doit protéger tout le monde, c'est lui qui a la grande responsabilité du contrôle social, parce que l'État peut contrôler les familles, l'État peut contrôler les écoles, l'État peut contrôler les églises, l'État peut contrôler toutes les institutions sociales qui mettent à risque la vie et notre vie d'ensemble. Il y a des pays où quand les parents ne savent pas jouer leur rôle, l'État les ravit les enfants et les confie à d'autres familles qui peuvent jouer convenablement leur rôle. Et il y a des écoles où on voit que l'éducation des enfants est en danger, on peut les fermer. Et donc, il faut que l'État joue son rôle de contrôle et parce qu'il a tous les moyens que les autres institutions n'ont pas. Et donc, mais chacun a sa responsabilité. Et l'État, c'est lui le grand contrôleur.
Et voilà, l'État est le grand contrôleur. Mais vous, en tant que sociologue, quelles sont les techniques que vous pouvez nous donner pour contrer la propagation des effets sociaux qui détruisent le mœurs de jeunes?
C'est d'abord en parler, comme on le fait maintenant. C'est d'abord en parler, et montrer les dangers. Mais aussi, au niveau des médias, éduquer à la responsabilité. Ce n'est pas seulement interdire, mais c'est plus une liberté, on doit éduquer à la liberté, une liberté qui doit être encadrée. Et donc, quand la liberté est encadrée, on éduque à la responsabilité. Nous ne pouvons pas nous passer des réseaux sociaux, nous ne pouvons pas nous passer des médias, nous ne pouvons pas nous passer de la télévision, par exemple, mais nous pouvons être éduqués à bien utiliser les médias, à bien utiliser la télévision, à bien utiliser les réseaux sociaux, nous montrer les dangers, nous montrer qu'il faut des limites. Que nous n'avons pas une liberté qui est limitée. Donc, il y a des limites. Mais cela demande une très bonne communication. Une très bonne communication au niveau des familles, les dialogues entre parents et entre parents avec les enfants. Une bonne communication au niveau de l'école. Une bonne communication aussi au niveau de l'État. Moi, j'ai été content quand, par exemple, au niveau des médias, on a interdit une des émissions, là, je parle, où il y a des femmes qui veulent chercher un homme, les grands bachelors, je pense. Donc, ce sont des choses que l'État peut interdire, comme on ne voyait pas ça, parce qu'elle expose les filles, et surtout les plus jeunes, à des rêves, ou bien, bon, ça ne participe pas à l'émancipation de la femme. Il y a des choses comme ça que l'État peut refuser. Et dans toutes nos chaînes, tous les médias, l'État a le contrôle et donc voit est-ce que ça participe à la vie de la communauté, à la vie de la société. Est-ce que ce n'est pas à l'encontre de nos valeurs? Par exemple, le winner. Maintenant, on parle que les filles sont maintenant plus dans les paris foot. Que dit l'État par rapport à tout ça? Est-ce que ça ne participe aussi à la délinquance juvénile? L'État est où pour orienter, pour encadrer, pour contrôler tout ça? Qui peut jouer à tout ça? À quel âge on peut commencer à jouer à tout ça? Donc, ça, c'est aussi le rôle du média, de réfléchir sur tout ça, et aussi la société civile que vous êtes, pour pousser aussi, mettre une certaine pression pour que l'État prenne de bonnes décisions qui peuvent nous préserver de tout ce qui arrive comme conséquence de tout ce qui est déviation sociale ou dépravation des mœurs.
Voilà, merci cher professeur d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.
Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de votre magazine. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce numéro du magazine Bana Okapi. Comment lutter contre la dépravation de mœurs chez les jeunes était au cœur de ce magazine. En effet, la dépravation de mœurs au sein de la jeunesse congolaise est une problématique croissante et préoccupante. L'influence des médias, l'accès facilité à Internet et aux réseaux sociaux, ainsi que d'autres facteurs socioculturels contribuent à l'érosion des valeurs morales et à l'adoption de comportements répréhensibles des jeunes. L'absence d'une éducation sexuelle adéquate et d'une communication ouverte sur ces questions dans les foyers et les écoles aggrave la situation. Ce magazine a été coproduit par Jeff Opela, Ezekiel Mouzali et Guylaine Castassia, grâce aux Wesolo, Rachel Kessé, André Kitenge et Stanislas Diomi. La réalisation a été assurée par Christian Mapendano, sous la supervision de Jean-Marc Matoki Mofelele Dijano. La mise en onde était assurée par Alain Goy, une présentation de Sarah Sombella. Retrouvez ce magazine sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net ou sur la page Facebook Bana Okapi. Nous étions heureux de passer ces 90 minutes en votre compagnie. On se retrouve demain sur la même fréquence et à la même heure.